Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir comme chaque mercredi matin sur Radio Patrimoine pour passer une petite heure ensemble à gérer votre épargne. Cœur de patrimoine, vous le savez, vous offre chaque semaine les avis des meilleurs spécialistes pour optimiser vos placements. Alors au sommaire de ce 42e numéro, on va bien sûr parler des marchés financiers, tant les questions sont nombreuses dans ce contexte international si mouvementé. Et puis, on évoquera une solution patrimoniale méconnue, le crédit hypothécaire. Ensuite, on prendra les chemins de traverse pour découvrir quelques façons particulières d'investir en immobilier. Et enfin, on terminera par un focus sur la cession d'entreprise. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on accueille François Chollet. Bonjour François.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous pour Montségur Finance et effectivement ces marchés. Alors on va les regarder de façon très patrimoniale hein, pour sortir finalement du jeu du day trading. On va essayer de voir comment nos auditeurs, nos auditrices peuvent considérer finalement cet actif que représentent les actions, les obligations. Enfin bref, votre regard un petit peu sur tout ça. D'abord, on a l'impression qu'on est un peu tétanisé par Trump, par ses droits de douane, que le marché, il a un peu tout perdu, ses boussoles qu'il avait en accueillant plutôt favorablement le numéro 2 de Trump, etc. Et puis finalement, on ne sait plus où aller.
Alors effectivement, on a des marchés qui sont perturbés. Perturbés parce qu'ils s'attendaient à avoir un Trump dans une nouvelle version de lui-même, mais avec lequel on avait finalement appris à vivre lors de son premier mandat. Alors à l'époque, c'était sur X, sur Twitter, qu'il sévissait. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, on ne plaisante plus, puisque en l'espace de quelques jours, non seulement on a eu droit à quelques tweets assassins, ou quelques sorties, on va dire, un peu définitives, mais surtout, on voit bien qu'on est sorti de la plaisanterie, pour aller cette fois-ci sur un jeu géopolitique bien plus puissant que celui qu'on ne pouvait imaginer au moment des élections. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes parce que ça rend la lecture des marchés bien plus difficile et ça rend également les réactions des pays qui se retrouvent comme cela mis sous les projecteurs et sous les foudres de l'administration Trump dans des réactions qui peuvent être elles aussi un peu excessives. Et donc on a vu en l'espace de quelques semaines et de quelques jours même on peut le dire parce que ça s'est passé
tout est souvent
à la vitesse
très rapide
de l'éclair,
hein.
Ça frappe simultanément et un peu partout des pays aussi paisibles ou alliés que le Danemark se retrouvaient pris dans une foudre liée au Groenland, où le Canada, un des plus grands partenaires historiques des États-Unis, se retrouvait
menacé d'annexion.
Oui, mais même un premier ministre qui annonce à sa population que l'ère du partenariat avec les États-Unis et du grand allié américain est terminée. Donc on arrive quand même à des discours qui sont extrêmement éloignés de ce qu'on avait pu connaître lors du premier mandat.
Ouais.
Et je crois qu'il y a une bonne raison à cela, c'est que nous pensions qu'il y avait avec Trump des effets de manche, une négociation d'éléphant dans un magasin de porcelaine, mais qui avait pour but de redonner un peu d'air à son électorat et puis de redonner un peu de pouvoir aux États-Unis dans ces négociations pour rééquilibrer des échanges commerciaux défavorables. Et il s'avère, si l'on creuse un peu plus, que cette action, finalement, est une action qui n'est pas si irréfléchie et qu'elle, en plus, a été validée par un accord au Congrès avec les Républicains, dans lequel le gouvernement en place s'est engagé sur 10 années à peu près 4600 milliards d'économies, d'abord par, effectivement, plus d'impôts tirés du droit de douane, également, évidemment, par des baisses de dépenses très significatives, et on voit bien M. Musk à la manœuvre pour essayer de faire baisser cette dépense publique américaine. Et cet accord de gouvernement, en vérité, si on le projette et si on le regarde tel qu'il a été signé, eh bien, nous conduit à un constat qui est assez frappant, c'est que s'il veut faire les baisses d'impôts qui ont été promises, et encore, je pense qu'il n'y parviendra pas, toutes choses égales par ailleurs, il sera bien et bien obligé d'encaisser beaucoup d'argent des droits de douane.
Oui.
Parce que cet accord dépend de ses recettes fiscales particulière. Et donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui m'inquiète un peu plus que par le passé, parce que ça revient à amener non pas cela comme une simple négociation. D'ailleurs, au départ, on pouvait penser qu'elle était même géopolitique plus qu'économique. Et aujourd'hui, on a bien le sens que c'est bien une négociation économique et qu'il faut bien tirer à peu près 200 milliards par an de dollars de ces droits de douane si on veut satisfaire les exigences de cet accord qui a été signé par
mais,
le président Trump.
Mais François, est-ce que les marchés ne s'interrogent pas aussi sur la dimension presque intérieure américaine? Parce que on se souvient, on ne va pas aller très loin en arrière, mais Trump a fait sa campagne en disant « l'inflation, c'est l'autre ». Et là, on voit bien que dans toute sa politique, il y a d'énormes facteurs inflationnistes. Et d'ailleurs, même lui finit quasiment par l'admettre. L'économie, entre guillemets, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est faire rentrer de la monnaie. Est-ce que ça, c'est pas aussi une préoccupation du marché qui va se retrouver avec des questions de banque centrale, avec des questions de change, avec des questions qui seront pas de l'intraday ou du changement de tweet ou autre.
C'est-à-dire, c'est
tendances lourdes, quand elles vont se mettre en place, elles se changeront pas d'un coup de cuillère à peau.
Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut identifier d'ores et déjà. La première chose, c'est que on a eu aux États-Unis, en amont de la prise de pouvoir de Trump et des annonces sur ses droits de douane, un phénomène de stockage qui s'est produit, c'est-à-dire que les acteurs économiques qui savaient qu'ils allaient devoir importer des biens avec des taxations qui n'étaient pas prévues, ont surstocké pour se prémunir de ces futures taxes. Et ce que l'on constate à la fin de ce premier trimestre, puisqu'on touche à la fin de ce premier trimestre, c'est que on a un réel ralentissement de l'économie américaine qui est lié à ce contexte politique, qui est lié à ces mesures protectionnistes, qu'il s'agisse des droits de douane ou des mesures de rétorsion, qui alourdissent évidemment tout commerce international, qui est aussi lié à d'autres facteurs, l'inflation perçue, qui est toujours très élevée aux États-Unis, bien au-delà même des chiffres réels qui sont publiés. Et puis, faut pas l'oublier, un effet richesse qui s'est dégradé avec une dégradation de la consommation et de la confiance. Les Américains consomment beaucoup et consomment d'autant mieux qu'ils ont leur épargne qui se valorise quasiment tous les jours, comme ce fut le cas tout au long de l'exercice 2024. Et donc, on a un cocktail au premier trimestre d'un fort ralentissement de l'économie américaine qui n'est pas simulé, qui est une réalité.
Bien sûr.
Et qui aujourd'hui engendre plusieurs choses sur les marchés. La première chose, c'est une vague de consolidation. Alors, si on regarde les indices larges, c'est assez frappant. On avait une incroyable concentration des performances sur les 7 plus grosses entreprises parmi les 500 américaines.
Les fameux 7 magnifiques.
Exactement. Et dans les arbitrages que nous avions, par exemple, fait en fin d'année, nous avions utilisé un indice, un ETF, ce n'est pas toujours un gros mot de la part d'un gérant actif, mais dans les allocations, en arbitrage d'un ETF S&P 500 pondéré par ces 7 magnifiques, nous avions opté pour un S&P 500 équipondéré, de façon à limiter le poids de chacune des 500 premières valeurs américaines à 1/500 de l'indice et d'une manière égale. Et ça, c'est assez marquant parce que ça a creusé un écart de quasiment 10% par rapport à l'indice tel qu'il est normalement regardé par les investisseurs. Alors, ça ne veut pas dire que ça baisse pas,
mais
ça
baisse bien sûr.
10% de moins que l'indice, c'est assez marquant. Ça veut dire que, en fait, le marché est en train de purger quelques excès et quelques concentrations de performance. Il faut dire qu'on avait vécu tout au long de 2024 des aventures boursières phénoménales. Je pense à des titres comme Nvidia, je pense à des titres comme Tesla, je pense à des titres même comme Apple ou Microsoft qui ont eu des parcours boursiers absolument phénoménaux. Et avec des valorisations qui étaient devenues un petit peu hors sol. Si on prend l'exemple de Nvidia, par exemple, on peut considérer qu'on avait atteint des niveaux qui étaient proches de ce qu'on avait connu dans la bulle Internet des années 2000. Je repense à des dossiers comme Cisco à l'époque, qui sont toujours là, évidemment. On peut toujours pas faire d'Internet sans Cisco, mais la valorisation de Cisco, 25 ou 30 ans plus tard,
n'est plus la même. Acabit.
Voilà. Même si on s'en est rapproché. Mais tout ça pour dire que on avait peut-être le sentiment de marché qui était dans une phase de bulle, d'accélération vertigineuse. Et il s'avère que depuis maintenant 3 mois, on a vu des corrections se produire et dans un premier temps en tout cas, sans remettre en cause la tendance de fond. Typiquement, on a vu des dossiers, je pense à Tesla par exemple, qui était assez emblématique, quasiment perdre 40% sans que le marché s'en émeuve plus que cela, ou Nvidia passer de quasiment $150 à un point bas à 90 ou $95 de mémoire, sans que ce soit de nature à remettre en cause la bonne santé des indices. Sauf que depuis quelques jours maintenant, on a vraiment un changement de régime sur les marchés. On le perçoit au travers d'un certain nombre d'éléments factuels, une remontée de la volatilité, c'est-à-dire une fébrilité qui revient de la part d'investisseurs qui étaient jusqu'à présent extrêmement confiants dans la solidité et qui continuent à investir sans discontinuer sur les marchés américains. On le voit également dans un affaiblissement du dollar, qui vient aggraver d'ailleurs les performances pour l'investisseur européen investi aux États-Unis, puisque si vous avez perdu 10% sur un indice comme le S&P 500 et que vous rajoutez 5% d'effet de change, ouais, vous avez cette fois-ci une correction qui est bien plus douloureuse pour l'investisseur européen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait en fin d'année dernière un flux inouï d'investissements qui s'étaient investis sur les États-Unis, je pense à novembre et décembre, notamment au travers d'ETF, pour les actions. Et il s'avère que l'exercice 2025 démarre avec plutôt un renversement de la table, une meilleure santé des indices européens versus les indices américains et quelques styles de gestion qui étaient un petit peu sous-performants depuis de nombreuses années. Je pense au style value, cyclique, qui retrouvent toutes leurs lettres de noblesse avec des fonds qui font de très belles performances.
Justement, cette Europe, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup parlé des États-Unis, on pourra dire aussi peut-être un mot du reste du monde ensuite, mais l'Europe, renversement de la table, parce que on était un peu soumis, un peu attentiste, un peu divisé, tout le temps à avoir la leçon donnée par quelques dogmatiques orthodoxes, ne m'en voulez pas de regarder un petit peu outre-Rhin, et là, tout change, le paradigme est complètement nouveau. L'Europe va dépenser, l'Europe veut se prendre en charge, ce sera un aspect bénéfique et on peut imaginer que les marchés derrière, pour une fois, enfin moi ça doit faire 20 ans et quelques que je que vous venez sur mes plateaux pour annoncer l'année des actions européennes et que chaque fois en fin d'exercice on se dit ah ben non, finalement c'était encore pas cette année. Cette fois-ci on peut y croire.
Alors, il y a de bonnes raisons de croire à un rattrapage de l'Europe. D'abord, parce qu'il a déjà commencé et qu'il est toujours en cours. Et il se fait pour des raisons qui me paraissent raisonnables. D'abord, des valorisations. Alors, on est habitué à ce que l'Europe soit moins bien valorisée que les États-Unis, mais on n'a pas forcément en Europe aujourd'hui que des entreprises très historiques, très anciennes et très dividendes dans la thématique. On a aujourd'hui des grands acteurs, des grands poids des actions européennes. Je pense à des acteurs des semi-conducteurs comme ASML. Je pense à des laboratoires qui sont aujourd'hui très largement concentrés sur des molécules qui ont un avenir de croissance radieux. Je pense à Novo Nordisk, qui a un concurrent aux États-Unis qui s'appelle Eli Lilly, mais qui existe bel et bien et dont le poids dans les indices est très important. On a SAP aussi dans les logiciels. Donc on a aussi de la tech en Europe. C'est pas tout à fait la même, mais on a des acteurs de croissance en Europe. Ça, c'est la première chose. Et donc le marché commence à les réapprivoiser un peu mieux. Mmh. La deuxième chose, c'est de se dire que on va avoir besoin en Europe d'investir. Et vous l'avez rappelé, l'Allemagne a franchi un cap, un Rubicon qu'on n'imaginait pas forcément il y a ne serait-ce que quelques
même
mois.
Constitutionnel, hein, quasiment.
Qui est quelque chose qui va, je pense, marquer durablement. Ça se marquait d'abord par une remontée des taux qui a été assez brutale, qu'on n'avait pas vu, à titre personnel, je crois que ça remonte à mes années d'études, de voir des taux allemands qui bondissent en l'espace de 24 heures de 40 points de base. Alors ça peut pas forcément parler beaucoup aux auditeurs, c'est-à-dire un taux allemand de 10 ans qui prend 0,4%, ça veut simplement dire que si vous êtes porteur d'une obligation allemande à 10 ans, vous avez perdu plus de 4% sur une seule séance.
Je rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas que ça fonctionne à l'inverse.
Voilà. Hein, c'est une marge d'escalier qu'on a vécue sur la partie obligataire et qui est venue impacter aussi les portefeuilles par ce qu'ils ont de plus prudent lorsqu'ils sont investis en euros. C'est quelque chose qui va compter. Ça a eu des impacts d'ailleurs sectoriels aussi. Ça a eu en nombre d'impact. Mais la dynamique, elle est importante, et ce plan d'investissement allemand a été un peu joué par les marchés, mais pas pleinement, tout simplement parce qu'il faudra du temps pour que les décisions d'investissement qui ont été prises se traduisent en financement et que ces financements soient investis concrètement dans les secteurs qui ont été appelés, que ce soit les secteurs liés à l'infrastructure, à la défense, etc.
Et le reste du monde dans tout ça? Parce que, alors on va pas les prendre tous, mais enfin en clair, quand on dit le reste du monde, souvent c'est qu'on va regarder du côté de l'Asie et plus singulièrement de la Chine.
Alors ça faisait partie des grands paris 2024, figurez-vous. Ce pari a été un peu audacieux parce que il s'est fait, pour nous, qui n'avions pas du tout de Chine en portefeuille, lorsque on a compris que l'État n'allait pas laisser tomber l'économie et allait intervenir, y compris sur les marchés financiers. C'est-à-dire au mois d'avril-mai 2024, on a eu d'ailleurs un beau démarrage immédiat et puis quelques soubresauts et l'emballement ou le, on va dire le retour en grâce de la Chine a commencé au cœur de l'été au mois d'août 2024 avec un rallye d'à peu près une trentaine de pourcents sur le mois et puis des phases de digestion. Mais globalement, depuis maintenant quasiment une année, on a une très belle performance. Alors, on avait utilisé là aussi des ETF pour aller en Chine. Alors, ça peut paraître assez paradoxal, mais au départ, nous sommes allés acheter deux valeurs assez connues qui s'appellent Tencent et Alibaba. Et l'ETF permettait d'en avoir 32% du portefeuille. Et ça a été un des facteurs de la performance de cet investissement-là que nous avons conservé. Donc, dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui, pour l'instant en tout cas, est assez contrariant et parvient plutôt bien à limiter la volatilité de nos portefeuilles actions. Ce qui est intéressant, c'est que l'ETF permettait cette surconcentration qu'on n'aurait pas pu faire avec un fonds de gestion dite active, mais dans l'idée que lorsque la valorisation des marchés chinois aura retrouvé quelque chose d'un peu plus conforme à ses moyennes historiques, je parle de longue période, eh bien évidemment qu'on trouvera des gérants qui, cette fois-ci, iront faire un peu plus de tri pour essayer de capter un peu plus de valeur. Mais dans les phénomènes comme ça, de grands rattrapages d'indices, je dois reconnaître que l'ETF est assez imparable, surtout sur des zones où l'investissement direct est difficile.
Ouais. C'est aussi à ça que peuvent servir ces ETF. Hein, c'est pas le...
Mais dans les jokers de 2024, et que nous avons conservé, la Chine en faisait partie... On avait deux autres petits jokers dans les allocations. Il y en a un qui ne vous perdra pas, c'est les valeurs de type small cap européenne, c'est-à-dire les capitalisations inférieures à 1 milliard d'euros à l'échelle de la zone euro. On y croit d'autant plus qu'on a de bonnes raisons d'y croire. D'abord, 2024, pour la première fois, on a un fonds qui fait la même performance que l'indice large.
D'accord.
Fonds small cap que nous gérons, qui ne porte pas le fonds Montségur, mais qui s'appelle Sepiam Europe Small Cap, termine l'année autour de 7% de performance, c'est-à-dire la performance de l'indice large. Il n'y a pas de sous-performance à avoir eu cette classe d'actifs. Depuis le début de l'année, on a un peu de sous-performance, mais une performance qui est très positive, donc c'est toujours encourageant. Mais c'est assez cohérent avec, là aussi, un investissement un peu contrariant. Nous avons en Europe un tissu de valeurs dites moyennes, d'ETI, absolument magnifique, qui est très largement sous-valorisé. Cette décote, on peut dire, est historique. Elle s'est légèrement réduite, mais très légèrement, et on peut parler de 20-25%.
Et elle va se réduire ?
On considère qu'elle va continuer à se réduire pour deux raisons principales. D'abord, c'est que l'accès au financement s'est normalisé et qu'on n'a plus les goulots d'étranglement du crédit que nous avions, tout simplement parce que se sont un peu détendus, notamment à long terme. La deuxième raison, c'est simplement que vous avez une telle sous-valorisation que les opérations financières se multiplient, c'est-à-dire que soit les dirigeants décident par eux-mêmes de sortir de la cote leur entreprise en finançant un LBO, c'est-à-dire un rachat de leurs titres qui sont sur les marchés, pour s'éviter un certain nombre de contraintes, évidemment, soit tout simplement des concurrents qui veulent gagner des parts de marché ou reprendre de la marge verticale sur une chaîne de valeur, vont aller chercher à moindre coût une entreprise. Ça leur coûte finalement moins cher que de faire de la croissance organique qui coûtera et des investissements très conséquents. Et donc, on a un phénomène de sortie et de raréfaction de cette classe d'actifs, tout simplement parce que les entreprises commencent à sortir de la cote et on a beaucoup plus de sorties que d'introductions en bourse.
Bon, donc, ça devrait continuer un petit peu.
Ça, en tout cas, ça soutient des valorisations parce qu'on a généralement des primes sur ce genre d'opérations qui peuvent aller à des montants très significatifs, je pense autour de 30 ou 40%, c'est massif.
Et puis dernier point, parce qu'on est un tout petit peu pris par le temps, François, c'est l'immobilier coté.
Ah, dans les petits jokers, j'avais ce sujet-là. C'est un sujet qui m'a fait un joli faux départ en 2025. On démarrait très bien. À la faveur de constats, là aussi, assez simples, on a un secteur de l'immobilier qui a été chahuté par les difficultés à refinancer à un coût raisonnable tout le levier de l'endettement qui avait été accumulé avec des taux qui étaient proches de zéro pendant longtemps. Et puis, on a eu, en fin 2024, des publications qui ont été très rassurantes. D'abord, on a enregistré plus de baisses de valeur du patrimoine des foncières cotées, qu'il s'agisse des foncières d'habitation allemande notamment, qu'il s'agisse des foncières de commerce. On a en France deux grandes foncières de commerce, Unibail et Klépierre, qui sont cotées et qui ont publié d'une belle façon, d'ailleurs qui reprennent des distributions de dividendes pour celles qui avaient été stoppées.
Oui. C'est un peu comme dans les SCPI, ça va mieux.
Alors les SCPI ont commencé à enregistrer des baisses de valorisation bien plus tard que les foncières cotées. Les foncières cotées, c'est un actif qui a corrigé depuis maintenant plus de deux ans.
Oui, d'accord.
Et donc cette décote, elle s'est creusée et elle s'est maintenue. Et donc on a eu un premier rattrapage en début d'année de cette thématique, mais il a été balayé, tout simplement, balayé par la hausse des taux allemands, les taux à 10 ans, parce que le marché utilise ce baromètre-là pour juger de la santé des foncières. Mais je crois que ça, c'est une vision un peu court terme. La situation s'est vraiment assainie. On a des entreprises qui ont réussi depuis trois ans et à se refinancer et aussi à améliorer leur profitabilité, tout simplement parce que les revenus de loyer qu'elles touchent ont été, avec le temps, indexés sur l'inflation qui s'était marquée sur la zone euro. Et donc, on a de belles perspectives avec une décote qui est là
donc
aussi.
Donc, vous poussez toujours les feux.
Je reste positif sur cette catégorie d'actions qui présente une caractéristique que les gens n'ont pas toujours en tête. C'est une des catégories sectorielles d'actions les plus risquées. C'est plus volatile que l'index européen. En revanche, c'est plus performant, c'est-à-dire si vous prenez les performances de cette classe d'actifs sur 25 ans, par exemple, on a battu les indices boursiers sur les foncières cotées. Et donc, quand on voit une telle décote qui reste en place alors qu'il n'y a plus de baisse de valeur dans les patrimoines, je pense que c'est un bon signal d'achat.
Merci beaucoup François de ces quelques idées développées pour donc Montségur Finance dans Cœur de Patrimoine. Nous on poursuit notre voyage dans votre épargne.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on accueille à présent Véronique Bougardier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être ici en plateau sur Radio Patrimoine pour Cœur de Patrimoine, gérante du cabinet Bougardier. Et ensemble on va évoquer un produit finalement que peu de gens connaissent, ça s'appelle le crédit hypothécaire. On est dans le monde de l'immobilier, entre guillemets, du financement, souvent, et finalement, on en parle peu, et les banques, surtout, ne le proposent quasiment pas, j'ai envie de dire, de mémoire. Je crois qu'il y avait un établissement qui a depuis disparu, qui en faisait un peu son fer de lance, mais c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus. Dites-nous un petit peu la genèse, l'idée, le pourquoi du comment de ce crédit hypothécaire.
Alors, le crédit hypothécaire, c'est avant tout un refinancement. Alors, prendre une hypothèque, c'est une garantie pour une banque, et c'est le type de garantie qui ne sont pas tellement proposés par les banques françaises, effectivement. On connaît le crédit immobilier, qui est peut-être garanti par une hypothèque légale spéciale, qu'on appelle aujourd'hui de prêteur de deniers. Mais lorsque vous avez besoin que vous êtes propriétaire, que vous avez besoin d'un refinancement à votre bien immobilier, il est quasiment payé, et vous dites, après tout, je pourrais peut-être dégager de la trésorerie sur ce bien pour financer les études de mes enfants ou faire m'acheter une œuvre d'art. Bon, à part si vous allez voir votre propre banque, une banque traditionnelle, on va vous proposer un crédit consommation, mais qui ne va pas dépasser 75 000 euros et sur une durée relativement courte. Alors que, avec un prêt hypothécaire, c'est un refinancement que vous pouvez, pour lequel vous allez pouvoir obtenir une trésorerie personnelle ou à but professionnel, mais qui va être sur une durée assez longue ou amortissable, un prêt classique amortissable, ou in fine, vous paierez le capital à la fin.
Donc, concrètement, J'arrive, entre guillemets, chez l'intermédiaire financier. Je lui dis, voilà, moi, j'ai un appartement, j'ai une maison. Combien vous me prêtez contre cette maison?
Alors c'est déjà, c'est très bien, vous venez me voir parce que vous êtes propriétaire. Donc, vous avez déjà bien compris que pour avoir un prêt hypothécaire, il faut être propriétaire. Donc, c'est pas pour acheter un nouveau bien. Ça peut être pour acheter un nouveau bien, mais il faut déjà avoir un bien à donner en garantie. D'accord. En plus. Donc, sur un bien, je vais vous poser la question de savoir quel type de bien, si c'est un appartement, un local commercial, etc. Et ensuite, où il se trouve, parce que c'est très important, car en fonction de la localisation du bien, on va vous prêter, on va avoir une quotité plus ou moins importante. Donc, sur Paris, on prête en environ 50 à 60% en fonction de l'estimation de votre bien.
Alors, je le disais, il y avait dans ma mémoire, en tout cas patrimoniale, un établissement, le Crédit Foncier, pour ne pas le citer, qui était assez actif là-dessus. Et moi, j'ai souvenir qu'il y avait quand même pas mal d'idées reçues autour de... et qui souffrait même un petit peu ce crédit hypothécaire, de préjugés, de ceci, de cela. Enfin voilà, pourquoi est-ce que finalement il est méconnu ou mal aimé?
Alors, il est méconnu tout d'abord parce qu'il n'y a pas d'offre de la part des banques traditionnelles. Ouais, si d'accord. Votre banque vous proposait un crédit hypothécaire de 200 000 euros pour faire des donations à vos enfants ou payer des droits de succession plutôt que de vendre le bien, bien souvent, les personnes sont obligées de vendre un actif plutôt pour dégager de la trésorerie. Il est mal aimé parce que autrefois c'était un produit un peu... c'était le produit de la dernière chance, c'était le crédit de la dernière chance quand on avait besoin, quand on avait des dettes. Et tout au début, c'était les notaires qui prêtaient l'argent de leurs clients. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais les banques n'ont jamais vraiment en France proposé le prêt hypothécaire classique avec un remboursement sur une durée assez longue pour justement permettre d'avoir de la trésorerie et que ça sonne pas trop sur le budget en final.
Et pourquoi est-ce que c'est une solution patrimoniale efficace?
Alors, c'est un très bon effet de levier parce que vous avez une résidence principale ou une résidence secondaire, elle vous rapporte rien, vous l'utilisez, mais c'est un bien qui est, comme on dit en anglais, un mortgage. Donc c'est un bien qui coûte de l'argent mais qui rapporte pas. On a des clients, c'est un bien intéressant, c'est un produit intéressant parce que grâce à ça, moi j'ai des clients, des professionnels de l'immobilier, par exemple des marchands de biens, qui utilisent leur bien personnel, leur résidence principale, qui est souvent de grande qualité, pour obtenir de la trésorerie et faire des apports dans leur société de marchands, ce qui leur permet de pouvoir saisir des opportunités parce qu'ils ont les liquidités disponibles.
Mais bon, il y a bien un moment où il faut rembourser.
Mais bien sûr, comme tout prêt, il faut le rembourser. Donc, on va regarder vos revenus en fonction, on va regarder la valeur du bien, mais également votre capacité de remboursement. Hein, c'est pas un prêt sur gage où on dit on vous prête parce que vous avez un très beau bien, on va vous prêter, puis on verra bien ce qui va se passer. Pas du tout. Les banques, elles sont obligées, les banques qui font du crédit hypothécaire, de regarder comme tout type de prêt, votre capacité de remboursement.
D'accord.
À ce moment-là, ça peut être un prêt sur du très long terme, ça peut être un prêt, comme j'ai dit tout à l'heure, in fine, si par exemple, vous êtes multipropriétaire et que vous envisagez dans les 10 ans vous avez plusieurs biens et que vous envisagez dans les 10 ans d'en vendre un ou d'en vendre deux, eh ben vous pourrez faire un prêt in fine dont vous rembourserez le capital que dans les 10 ans maximum.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent du coup? On peut tout faire, on peut se payer un voyage, on peut s'acheter une voiture, une œuvre d'art, vous disiez tout à l'heure.
Voilà, alors on peut faire plein de choses, effectivement. Grâce à ça, on peut faire des prêts déjà plus importants qu'un simple prêt consommation. On peut aider ses enfants à faire des grandes études. On peut leur donner de l'argent on peut leur faire des donations également. On peut payer des droits de succession, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt que de vendre un bien quand on en hérite et qu'on n'a pas les moyens de payer les frais de donation, les frais de succession. On peut les financer grâce au bien en question. On peut faire des apports en compte courant dans sa société quand on est chef d'entreprise. On peut avoir un apport, par exemple, si on veut acheter un fonds de commerce ou des parts sociales, on peut être financé par sa banque, mais souvent elle nous demande un apport. Donc cet apport, il peut être mobilisé grâce à la valeur de votre bien immobilier, à votre patrimoine, à vos actifs immobiliers. On peut on peut se faire plaisir à faire le tour du monde, on peut s'acheter un yacht, D'accord. On peut s'acheter une voiture de collection, plein de choses.
Et ça s'adresse à qui en fait finalement? Parce que j'ai envie de vous provoquer un petit peu, mais en règle générale, quand on a besoin d'argent, oui, voilà, on va voir son banquier qui nous consent un prêt ordinaire, on va dire, ou à la conso ou immobilier, enfin bref, Voilà, un prêt dédié. Qui s'adresse du coup ce crédit hypothécaire?
Ça s'adresse à des personnes qui sont déjà propriétaires,
bien sûr.
Et qui ont des besoins assez importants tout de même. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, 75 000 euros après conso, c'est un peu limite. Donc, si vous avez besoin... Moi, j'ai eu le cas, par exemple, j'ai un client qui avait 5 enfants. Il voulait leur faire des donations, puisque avant, c'est 70 ans. Il avait le droit, sans droit de donation, 100 000 euros par parent et par enfant, donc ça faisait 1 million d'euros. Il a fait un prêt d'1 million d'euros pour donner 200 000 euros à chacun de ses 5 enfants. Voilà, ça c'est un exemple assez récurrent d'ailleurs qu'on retrouve très souvent.
Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, du coup, vis-à-vis de ça? Vous en faites la promotion, entre guillemets, aujourd'hui, et on est ravis d'éclairer ce prêt hypothécaire, mais voilà, comment vous vous positionnez?
Alors moi, je me positionne comme un cabinet qui a, depuis 1970, puisque mon prédécesseur, mon ancien associé, a créé son cabinet en 1970, et on a toujours fait que du crédit hypothécaire ou du refinancement d'actifs immobiliers.
D'accord.
On s'est positionné, on a toujours cherché à trouver des solutions très pertinente pour des clients qui sont multipropriétaires. Donc, on est reconnu sur le marché pour avoir des intervenants qui sont des banques souvent, qui ne sont pas des banques de réseau, hein. On est très spécialisé dans notre domaine. On a des partenaires depuis plus de 30 ans, les mêmes partenaires avec lesquels on travaille pour obtenir des prêts hypothécaires. Donc, il y a une demande et on a les bons partenaires en face avec qui on a créé des relations de confiance depuis plus de 30 ans. Ce qui est pas une évidence de travailler avec des banques et d'avoir leur confiance de aussi longtemps.
Et du coup, vous vous dites quoi là? Vous auriez envie finalement de vous dire, allez, il faut que ce mode de financement se démocratise, qu'on change le regard qu'on porte dessus. On a parlé de beaucoup d'idées reçues, auxquelles tordent le cou. Enfin voilà, quelques mots de conclusion, j'ai envie de dire pour terminer notre éclairage.
Alors surtout, il faut. C'est vrai que j'ai toujours évangélisé le crédit hypothécaire parce qu'il a toujours eu une mauvaise presse. On a toujours dit c'est pas bien d'hypothéquer son bien. En France, on aime bien avoir un bien qui est complètement payé pour être heureux. Il faut avoir payé son prêt d'immobilier. Mais c'est une idée. C'est vrai que c'est une très bonne solution pour trouver des financements pour créer son activité ou pour aider ses enfants à développer à créer leur activité. Et c'est un produit qui est malheureusement assez méconnu. Donc j'aimerais que, enfin, surtout dans l'avenir où les gens le comprennent comme un effet de levier et plutôt un beau produit pour l'avenir.
Changer
son regard, oui.
Merci beaucoup d'être passé, Véronique Bougardier, donc pour le cabinet Bougardier et cet éclairage proposé aujourd'hui sur le crédit hypothécaire dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et vous le savez, régulièrement, on vous donne des idées d'investissement et c'est vrai que l'immobilier en France, quand on cause de patrimoine, est toujours très présent. On a coutume de dire que vous, les épargnants, vous avez un parpaing dans le ventre et que vous aimez l'immobilier. Eh bien aujourd'hui, on ne va pas parler de maison, on ne va pas parler d'appartement, on ne va pas parler de commerce, on ne va pas parler de bureau. On accueille Olivier Brunet, bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous pour Barnes, Propriété et Château. Et donc, je le disais en préambule tout à l'heure, en ouvrant l'émission, on va prendre quelques chemins de traverse. Et vous allez nous proposer trois types d'investissements, entre guillemets, immobiliers, qui sortent un peu de l'ordinaire, puisqu'on va parler château, on va parler vignoble et on va parler forêt. Alors d'abord, on commence peut-être par le château. Comment est-ce qu'on... Il faut être piqué un peu pour...
C'est avant tout un sujet de passion.
Ouais, c'est ça.
C'est d'abord la passion qui motive.
Hein,
on a tous grandi avec des histoires de princesses, mais aussi de chevaliers. Donc les garçons se voient comme des chevaliers, les filles comme des princesses. Et on a la chance d'être dans un pays qui compte plus de 40 000 châteaux. C'est cette diversité finalement qui nous aide et qui participe à cet élan sur ce marché qui est de plus en plus dynamique.
J'imagine qu'il y a quelques critères, quelques incontournables qu'il faut avoir en tête quand on se dit, tiens, allez, je vais essayer de faire rimer une passion naissante avec la réalité de mon patrimoine.
Alors, c'est une passion, donc c'est un caractère irrationnel. Ensuite, une fois qu'on a trouvé, le rationnel revient en galop. Oui. Et là, on se pose les questions qui sont les questions classiques de l'immobilier. L'emplacement, et puis l'emplacement. Mais avant tout, c'est d'abord l'état. L'état d'un château fait la différence. Quand on achète 300 mètres carrés à Paris, on sait pour combien on va en avoir en termes de travaux si c'est complètement à refaire.
Oui. Et au pire, on aura un ravalement, mais
c'est... Et au pire, il y a le ravalement, et on sait aussi à peu près ce que ça coûte dans un immeuble haussmannien. Bon. L'enjeu sur un château est tout à fait différent. L'approche, un château, d'abord pour avoir une définition de château, remonte à des origines qui sont avant la Renaissance, donc des origines qui sont défensives, qui sont lointaines. Donc c'est souvent des maisons qui ont au moins 350-400 ans, qui tiennent encore debout, et qui ont connu des vagues successives de travaux, plus ou moins bien orchestrées. Donc, l'enjeu, réellement, c'est l'état du château, l'état de conservation, la durée des travaux et le montant plus ou moins précis qu'on va être en capacité d'investir.
Souvent, le montant de départ n'est pas au regard, souvent, du côté prestigieux de l'objet, entre guillemets. Le montant de départ paraît parfois ridicule quand on regarde les petites annonces. On se dit, oh là, bah, c'est quand même pas cher, mais c'est tout le reste qui va...
C'est vrai, Cédric, c'est souvent ce qu'on se dit, c'est pas cher. Il y a beaucoup de mètres carrés pour pas cher, mais il faut aussi voir ces mètres carrés comme une charge. Il y a le château, il y a les dépendances, il y a les communs, bien souvent une ferme, et c'est tout ça, en fait, qu'on s'engage à restaurer, à remettre sur pied pour ouvrir un nouveau chapitre, finalement, de l'histoire de ce château.
Cela étant dit, vous venez de prononcer le mot « histoire ». C'est donc historique, donc ça renvoie dans l'imaginaire de chacun un monument historique, un inventaire supplémentaire. Enfin, il y a des moyens de percevoir des aides, non ?
Bien sûr, bien sûr. La France a ça d'extraordinaire. Il y a deux types de classements. Ça existe depuis 1913. C'est une niche. Les avocats n'aiment pas beaucoup, d'ailleurs, qu'on parle de niche, mais c'est un biais fiscal qui permet, finalement, de maintenir notre patrimoine et de le faire rentrer, période après période, dans une ère beaucoup plus actuelle. Le classement, et puis ensuite l'inscription, qui est arrivée un petit peu plus tard. Sous l'égide d'une DRAC, c'est une direction régionale des affaires culturelles, organisée avec des architectes des bâtiments de France qui vont faire le suivi individuellement de chacun des projets sur le secteur qu'ils ont dans leur giron. Et tout ça sous l'égide du ministère de la Culture.
Et c'est bien ou c'est pas bien ? Je vais me faire l'avocat du diable, mais quand on a les oreilles qui traînent un peu dans le monde patrimonial, on a des gros fanas d'être monument historique et d'autres qui disent « Oh là là, moi je veux surtout pas, parce que sinon après, quand je veux changer une fenêtre, quand je veux faire ceci, quand je veux faire cela, je suis obligé de passer sous les fourches collines. »
Voilà, de l'ABF du coin. Il y a deux écoles, il y a deux façons de voir les choses. Effectivement, on va trouver des pourfendeurs du dispositif monument historique qui, effectivement, vont se dire qu'à chaque clou qu'ils vont devoir planter, il va falloir obtenir l'agrément d'un ABF qui va envoyer son copain.
Architecte des bâtiments de France, un ABF.
Absolument, qui va planter le clou contre 100 euros. Bon, ces 100 euros seront, en général, subventionnés. Il faut savoir, quand même, que les travaux qui font l'objet de la supervision des architectes des bâtiments de France sont des travaux patrimoniaux qui sont dans le but de conserver ou de restituer ou de reconquérir ce patrimoine qui s'est un petit peu abîmé, qui s'est défait au fil du temps. À côté de ça, il y a des gens qui sont tout à fait favorables à ce dispositif et qui savent faire rimer, finalement, une jouissance personnelle d'un château avec un dispositif monument historique.
Est-ce que ça peut être rentable ?
Oui, ça peut être rentable. C'est une question d'investissement à la base. C'est un peu comme un business plan de n'importe quel investissement. Dès lors qu'on le prend sous le prisme de l'investissement, un château qu'on veut convertir en hôtel, oui, peut devenir rentable. Il va nécessiter des capex importants, une réflexion très importante, un accompagnement, naturellement, des architectes des bâtiments de France. Mais c'est des sujets qui sont évidemment potentiellement rentables. Il y a plusieurs manières, d'ailleurs, d'optimiser un château. Je parle d'un hôtel, c'est peut-être
le degré ultime.
Presque. Le degré ultime, exactement. Ensuite, il y a des manières un peu plus nuancées, en l'ouvrant au public pour des visites, s'il a un caractère historique qui peut attirer du monde, s'il y a des jardins qui sont, pourquoi pas, remarquables. L'étape d'après, les mariages.
Ouais,
beaucoup de châteaux organisent des mariages dans les annexes, dans les dépendances, dans les communs, des séminaires, reçoivent du public dans des effectifs contenus, sans être classé ERP, mais dans une configuration de chambre d'hôte. Absolument, ou de gîte.
Et ce marché, parce que vous rappeliez presque en propos liminaire que l'offre est potentiellement très grande dans notre pays, ouais. Dans notre vieux pays, c'est un marché dynamique ou c'est un marché...
Ça fait 5 ans qu'on voit les transactions qui ont doublé de volume dans ce qui ressemble à ce qu'on appelle la définition du château, c'est-à-dire environ 40 000 bâtiments en France, et on parle d'environ 200 châteaux qui changent de main chaque année. Donc oui, c'est un marché qui, pour un marché de niche sur si peu finalement d'actifs immobiliers, il y a un taux de transfert qui est, mine de rien, assez important.
Voilà donc pour le château. On a dit deux autres actifs qu'on va évoquer aujourd'hui, le vignoble. Alors là, effectivement, certains s'intéressant au patrimoine ont peut-être déjà entendu parler de la possibilité d'investir dans du vignoble, j'ai envie de dire presque papier. Mais de quoi on parle, nous, là ? On parle justement de ces fameux GFV, de ceci, de cela, ou on parle de s'acheter vraiment un vignoble ? Parce que là, il faut quand même des connaissances, quoi.
Il faut des connaissances, il faut être accompagné, c'est finalement à ça qu'on sert, on prend les clients par la main et on les emmène. On essaie avant tout de définir ce qu'ils cherchent. Beaucoup de clients viennent nous voir en nous disant « je rêve d'un vignoble ». Mais ils ne se rendent pas compte de ce que c'est.
C'est ça.
Un vignoble, c'est un véritable business. Alors, il y a des manières plus ou moins engagées de devenir propriétaire d'un vignoble ou plus ou moins accompagnées. D'abord, il faut définir une zone géographique. Ça, c'est la première chose. Tickets d'entrée, que ce soit en Champagne ou en Bourgogne, aujourd'hui sont réservés pratiquement à un public de professionnels. Oui. Il n'y a que des professionnels. Ce dont nous parlons, plutôt orienté sur le Bordelais, le Rhône, la Loire, la Provence, évidemment le Languedoc-Roussillon, il y a des propriétés accessibles à des prix qui sont relativement tenus par rapport au reste du marché.
Mais, enfin... Bon, oui, ça fait rêver, avoir son propre vin et ceci, cela, mais enfin, ça reste quand même de l'agriculture, c'est quand même réglementé. On s'improvise pas vigneron, si ?
Ah non, on ne s'improvise pas vigneron. Pour être vigneron, il faut savoir ce qu'on fait. Ouais. Donc là, plusieurs schémas. On a souvent des entrepreneurs qui, après une exit réussie, se disent « tiens, si j'achetais un vignoble ». Et à ce moment-là, s'entourent. Donc on s'entoure avec... finalement, les compétences qui permettent de réunir les deux métiers qui recomposent le métier de viticulteur. D'abord, le travail agricole, comme vous l'évoquiez, mais aussi le travail de commercialisation. Et celui-là, on l'oublie un petit peu. Et pourtant, il est essentiel, savoir vendre son vin, commercialiser son vin. Une fois qu'on sait le fabriquer, il faut être capable de le vendre. Et là, c'est les enjeux du moment.
Et alors, généralement, vos clients, ils achètent un domaine, entre guillemets, tout seul comme les grands. Enfin, accompagné par vous, mais tout seul comme des grands, où ils vont tout prendre en charge en ayant éventuellement les qualifications, ou au contraire, est-ce qu'ils se disent « Bon, ouais, j'ai les moyens, mais j'ai pas le savoir, j'ai pas la connaissance, peut-être il faut que je rentre en tant que partenaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, accompagné, pris dans la main, en biseau, enfin, je sais pas. »
Deux catégories, Cédric. Les professionnels, sur les régions que j'évoquais plus tôt, la Champagne, la Bourgogne, 100% professionnels. Ils connaissent le business par cœur. Le sous-jacent immobilier est pratiquement anecdotique dans les prix. En revanche, dès qu'on arrive dans des régions plus au sud, je pense à la Provence, Languedoc-Roussillon, on voit des propriétés qui sont vraiment l'archétype classique quand on pense à une propriété viticole, c'est-à-dire la très belle maison entourée par les vignes, un peu d'arbres, enfin quelque chose de très chouette. Là, il y a une approche qui est mixte. D'abord, c'est profiter d'une maison dans le sud, avec un climat agréable, favorable, et être capable de produire son vin. Et là-dessus, les clients, souvent, sont accompagnés. Donc, il y a le système de la coopérative du coin,
bien
qui
sûr.
Va gérer, bon, voilà, s'occuper des vignes, s'occuper de la commercialisation, il n'y a pratiquement rien à faire. Il y a le système de l'autonomie totale, où on va laisser un de ses enfants qui va se professionnaliser parce qu'il se passionne, et puis finalement devenir viticulteur. Ou alors des systèmes intermédiaires où on donne des baux à des agriculteurs, des viticulteurs de la région. On fait venir en sous-traitance des professionnels, des experts sur la vinification, sur les assemblages, les œnologues et les sommeliers à la fin pour tester et accompagner les ventes.
Et vos clients, Qui sont-ils ? Des Français, des étrangers ? Parce qu'on sait que le vignoble français intéresse énormément les étrangers.
50-50.
Ouais, 50-50.
50-50. Les étrangers s'intéressent beaucoup, contrairement aux Français, au Bordelais en ce moment. Donc ça nous réjouit. On est capable d'accompagner des investisseurs étrangers à Bordeaux en ce moment. Quand les Français, eux, sont un petit peu plus timorés pour cette région. À côté de ça, on a beaucoup de professionnels du vin qui s'orientent sur les régions les plus classiques et qui ont des recherches extrêmement précises et extrêmement sélectives sur l'AOC du vignoble qu'ils cherchent à acheter.
Allez, on termine notre voyage entre guillemets immobilier par la forêt. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet investissement-là ? Pourquoi est-ce que c'est prisé ? Là aussi, il y a diverses formules.
Oui, c'est l'investissement bonne conscience.
c'est l'investissement vert.
C'est vert. Et en plus, vous le savez, c'est fiscalement intéressant et par rapport à son IFI et par rapport à la transmission. Donc, c'est vraiment un investissement en ce moment qui a le vent en poupe.
Mais là, c'est hyper long.
Mais c'est hyper long, c'est quand on a un rapport au temps qui est du temps long.
C'est
on
ça.
On parle de temps long pour la viticulture.
Là, c'est pas du day trading.
On parle de temps long pour les châteaux, on parle de temps long. On ne sera propriétaire qu'un petit chapitre de l'histoire de la vie de ces biens immobiliers. Une forêt, si on peut traiter ça de bien immobilier, c'est un peu la même chose. On en sera propriétaire une période certaine. Mais c'est un rendement qui est durable. C'est un rendement qui est récurrent, qui est régulier. Et je pense que ça rassure. Aujourd'hui, la valorisation du bois... finalement, et de toute cette filière, permet d'avoir des rentabilités qui sont intéressantes.
Non, mais on glosait il y a quelques minutes sur l'idée de faire son vin. Je vais faire un gros raccourci. Il suffit de faire pousser du raisin, de le presser, de le mettre dans une bouteille, enfin de le faire vieillir et de le mettre dans une bouteille. Personne va tout de suite y arriver du premier coup, mais on peut espérer. Là, s'attaquer à une forêt de chênes, de savoir la faire grandir, la nettoyer, la protéger des maladies. C'est un vrai diplôme.
Mais bien sûr, c'est un vrai métier. Et heureusement, il y a toute une filière, il y a tout un écosystème autour du business aujourd'hui de la forêt qui existe. Des experts d'abord, qui vont valoriser la forêt, qui vont arpenter et donner des avis sur l'état sanitaire. Ensuite, des gestionnaires qui vont, eux, opérer la forêt. Vous parliez de la nettoyer. Et puis ensuite, on va avoir les bûcherons, finalement, qui sont l'extension du travail du gestionnaire. Et tout ça est encadré dans ce qu'on appelle un plan simple de gestion. Un plan simple de gestion, c'est une obligation française qui prévoit, à partir de 10 hectares de forêt, d'avoir un engagement sur une période de 30 ans sur la gestion effective de toute sa parcelle forestière. C'est-à-dire, on va dire, les peupliers vont avoir une durée de vie de 20 ans. Dans 20 ans, on va récolter 7 parcelles de peupliers. Les gros chênes, on va pas y toucher. On va faire des éclaircies. Et puis, dans d'autres massifs, des coupes sélectives. Et c'est ainsi, en fait, qu'on gère les forêts, mais accompagné par des professionnels, systématiquement.
J'imagine que les prix sont pas les mêmes si on a justement du peuplier qui pousse en 20 ans, des chênes qui poussent en 400 ans, des sapins qui poussent
évidemment
en une quinzaine d'années. Enfin voilà, j'imagine que les essences. Comment se font les prix ? Et puis pareil, enfin une forêt, c'est quoi ? C'est un bosquet ou c'est des centaines d'hectares ? C'est pas le même prix.
C'est difficile de donner une définition par rapport à une surface. En revanche. Ce qu'on peut dire, c'est que la valeur des forêts dépend évidemment de l'espèce et du secteur dans lequel elle pousse. Évidemment, une forêt de chêne en forêt de troncée plantée par Colbert il y a quelques siècles, alors qu'il se disait on va avoir besoin de bateaux pour aller explorer le monde. Ces arbres n'ont pas été coupés. Et une forêt de peupliers ou alors de pins dans les Landes qui ont des croissances hyper rapides pour faire
des boîtes de
papier, des boîtes de camembert, enfin. Une filière qui est intéressante, mais qui n'a pas le même besoin que les charpentes de Notre-Dame, la tonnellerie pour les grands crus de Bourgogne. C'est des approches qui sont différentes. Pour vous donner des chiffres, on parle d'un hectare de forêt qui peut être valorisé dans les plus belles forêts avec les plus beaux chênes entre 50 et 70 000 euros de l'hectare. Un hectare de taillis ou de futaie sans trop d'intérêt qui va être à 2-3 000 euros.
Merci beaucoup de nous avoir emmenés dans toutes ces facettes de ces quelques actifs immobiliers, châteaux, vignobles, forêts, signé Olivier Brunet pour Barnes Propriété Château. À très bientôt.
Merci Cédric, à bientôt.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour terminer, on accueille donc Christophe Guerchel. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous, avocat associé au cabinet Allerion et spécialiste donc de fiscalité, de fusion, acquisition, de M&A, comme on dit en bon français dans le texte. Et on va justement évoquer ces transmissions d'entreprises. Quels sont d'abord les différents cas que l'on retrouve quand on parle de transmission d'entreprise et en quoi est-ce que vous intervenez finalement dans ce monde de la transmission d'entreprise?
Alors la transmission d'entreprise, ça peut être évidemment une cession ou une acquisition d'entreprise. C'est une partie de mon travail comme avocat. Mais là, aujourd'hui, je voulais plutôt parler de la transmission des entreprises familiales, c'est-à-dire la transmission par donation ou par succession. Mais enfin, on préfère toujours une transmission par donation parce que c'est une transmission préparée.
Mais c'est un acte hyper important dans la vie de la famille. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des ressorts économiques et financiers.
Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez complexe, parce que d'habitude, quand on est avocat et qu'on conseille l'une ou l'autre partie, l'acheteur ou le vendeur, dans une opération, on est l'avocat de son client. Ici, c'est plus complexe parce qu'on doit rechercher un consensus familial entre les différentes générations. Et ça fait tout le sel et tout l'intérêt pour moi de cette pratique de la transmission des entreprises familiales. C'est complexe aussi parce que, évidemment, il y a plein d'enjeux qui dépassent largement les enjeux juridiques qui se jouent.
Et donc, ça se prépare peut-être même encore plus qu'une cession, une transmission d'entreprise, j'ai envie de qualifier d'ordinaire?
Oui, ça se prépare parce que on a des ressorts émotionnels qu'il faut essayer de comprendre. Il faut comprendre la dynamique de la famille. Il faut comprendre aussi, éventuellement, arriver à désamorcer des processus émotionnels qu'on appelle de sabotage, parce que des dirigeants actionnaires qui sont en place, ils ont envie de transmettre et en même temps, ils n'ont pas vraiment envie de transmettre. Les enfants, si on parle de la transmission la plus fréquente, c'est-à-dire la transmission aux enfants, ils appréhendent aussi un petit peu cette transmission. Est-ce que il va y avoir une égalité entre les enfants? Est-ce qu'on va privilégier l'un des enfants que l'on ressent comme étant le meilleur pour le futur leadership de l'entreprise? Est-ce qu'on va transmettre aux enfants une position d'actionnaire, donc une transmission qu'on pourrait qualifier de patrimoniale? Ou bien est-ce qu'on va vouloir aussi aborder les questions de direction exécutive?
Mais il y a deux volets finalement. On pourrait juste transmettre les actions en disant maintenant c'est vous qui êtes propriétaire, point barre. Mais il y a aussi celui qui va diriger l'entreprise, qui va presque avoir le prestige en plus, non?
Oui, alors on peut
ou les difficultés d'ailleurs, enfin, et où les difficultés?
Oui, c'est ça, parce qu'on peut être un très bon actionnaire familial. Ça suppose déjà de prendre une place, parce qu'il faut voter à l'Assemblée Générale, il faut comprendre les comptes, il faut comprendre l'entreprise. Et être un très bon actionnaire familial, c'est pas si facile que ça. On peut aussi, si on prend une gradation, faire partie d'un organe non exécutif, un organe de surveillance, dans lequel, par exemple, les jeunes générations vont prendre de l'information, vont pouvoir donner leur point de vue. Et puis, devenir exécutif, c'est pas forcément ce qui va se passer tout de suite, sauf si un ou des enfants étaient déjà impliqués, très impliqués dans l'entreprise. Mais souvent, on a une montée en puissance.
Vous avez presque prononcé le mot d'obstacle tout à l'heure. Il y a des obstacles vraiment qu'on peut qualifier d'obstacles, ou c'est quelques aspects que vous qualifieriez de freins, de courroies de transmission un peu bancales? Enfin voilà, qu'est-ce qui peut empêcher le bon déroulé finalement d'une transmission familiale?
Alors pour moi, il y a deux familles de... Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'obstacle, mais en tout cas, il y a deux familles de questions qu'il faut se poser. Il y a la fiscalité, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a des possibilités d'arriver de manière plus effective à une transmission. Mais il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ces questions que je qualifie d'énergie, des questions émotionnelles, des questions de générations qui sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Je vais vous donner un exemple qui me tient pas mal à cœur. Moi, je suis confronté souvent à des entreprises dans lesquelles les jeunes générations sont très impliquées dans la transformation du monde. On a besoin aujourd'hui des entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique, pour protéger la biodiversité. Ce sont des questions qui leur tiennent à cœur. Alors évidemment, l'économique vient en premier, mais très rapidement après, il va y avoir qu'est-ce qu'on fait pour aller dans cette direction-là. Eh bien, les jeunes générations peuvent, dans certains cas, bousculer les pratiques et amener une amélioration, enfin ce que moi je qualifierais d'amélioration. Oui. Donc c'est un dialogue.
Alors, effectivement, il y a des questions fiscales, parce que de toute façon, quand on est en France, il y a toujours une question fiscale. Alors, effectivement, il y a le régime commun, et puis il y a des tas de dispositifs qui peuvent venir un petit peu changer la donne. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de la fiscalité de ce monde des transmissions d'entreprises dans ce contexte familial ?
Alors, il faut avoir les idées simples. D'abord, on a des droits de donation ou de succession qui sont les mêmes. Droits de donation, taux des droits de donation, taux des droits de succession, c'est la même chose.
C'est pas parce que c'est une entreprise que ça change.
Alors, c'est pas parce que c'est une entreprise que ça change au niveau des taux d'imposition. Et les taux d'imposition, bah, assez rapidement, à partir d'1,7 million, on va arriver à une tranche de 45%. En d'autres termes, si on n'avait pas de dispositif d'aménagement, on aurait une situation dans laquelle il serait compliqué de transmettre une entreprise en maintenant l'activité, en maintenant les emplois, et pour ces raisons-là, on a ce fameux dispositif Dutreil, qui est un dispositif qui permet d'avoir une possibilité de transmettre à moindre coût l'entreprise. Mais attention, c'est pas un cadeau fiscal. Il faut le voir comme un engagement qui est demandé, d'ailleurs on parle d'engagement Dutreil, un engagement qui est demandé aux successeurs, c'est-à-dire aux enfants, de rester dans l'entreprise, de conserver les titres pendant une certaine durée. Donc, c'est cette fameuse durée de 6 ans. Et donc, on a une véritable transmission dans le temps où la direction va devoir être assumée par quelqu'un qui est dans la famille et où on va conserver les titres pendant un certain temps.
Mais là encore, ça ne s'improvise pas. Enfin, je veux dire, ce pacte Dutreil, il faut qu'on prenne 5 minutes là pour... enfin, peut-être pas 5 minutes, mais quelques minutes pour en causer quand même. Parce que, voilà, moi, je suis dirigeant d'entreprise avec la famille, etc. Je veux transmettre. D'abord, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut que j'y pense. Et puis, il y a plein d'engagements, de durée, de détention, de ceci. Enfin, voilà, il y a tout un scénario à suivre.
Oui, on est surpris d'ailleurs de constater que un certain nombre d'entreprises et de chefs d'entreprise ont entendu parler du pacte Dutreil, mais n'ont pas une idée claire sur la question. La première question à se poser, c'est est-ce que je suis éligible au pacte Dutreil ? Pour ça, il y a un seul critère. Il faut que l'entreprise ait une activité qu'on appelle qualifiante, nous, c'est-à-dire que ça soit une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, même agricole. Si on est dans cette configuration-là et qu'on veut transmettre, on est éligible au pacte Dutreil, il y a des contraintes. Ces contraintes, c'est qu'il faut signer un bout de papier, mais ça, c'est rien. Voilà.
Il y a toujours un moment où il faut signer.
il faut toujours signer et on paye des droits d'enregistrement extrêmement modiques pour signer un pacte Dutreil. Et ensuite, on va devoir décider avec les parties prenantes combien on donne. Est-ce qu'on donne la moitié et les parents conservent le contrôle ? Est-ce qu'on donne tout mais on démembre la propriété ? Donc on va avoir plein de scénarios différents. Si on poursuit seulement la maximisation fiscale avec un pacte Dutreil sur ce qui est donné, on a 75% d'abattement sur la base. Mmh. Bon. Et ensuite, on va avoir une réduction d'impôt de 50% si on donne en pleine propriété avant 70 ans, mais on peut aussi avoir une autre réduction sur la base si on donne en démembrement de propriété, c'est-à-dire on donne la nue propriété aux enfants et les parents gardent l'usufruit. Tout ça, ça se combine très bien. Mais il faut quand même ne pas vouloir à la fois transmettre et conserver, hein, si on est dans l'esprit des parents, ouais. Il faut faire un choix. Et c'est là où nous, en tant que conseil, on est là pour essayer d'orienter, de diriger et de susciter un certain nombre de questions notamment chez les donateurs, notamment chez les parents.
Pour terminer, un petit mot du professionnel que vous êtes. On a vu que le Dutreil, dans cette période de disette, il intéressait pas mal le législateur qui disait, est-ce qu'on peut pas changer un petit peu la donne? Est-ce qu'on peut pas faire des économies? Est-ce qu'il est encore bien calibré? Enfin, comment vous les regardez, ces mouvements, ces envies, ces doutes?
Alors moi, j'ai un petit peu de recul sur la situation parce que quand je suis arrivé dans cette profession et que j'ai créé d'autres associés le cabinet Allerion, j'ai toujours une équipe qui fait de la fiscalité et puis une équipe qui fait du M&A. Mais à côté de ça, j'ai lancé une fondation aussi pour la protection des forêts, donc rien à voir. Et du coup, j'invite mes clients à prendre pas mal de recul sur la situation. Le pacte Dutreil, il a toujours été critiqué. Ouais. D'aussi loin que je m'en souvienne, il a toujours été critiqué. Il correspond, me semble-t-il, à un besoin parce que il permet de transmettre les entreprises familiales en laissant des fonds pour les personnes qui transmettent et pour les personnes qui vont recevoir ces entreprises, qui vont servir à muscler l'entreprise pour le monde qui
pérenne,
les attend pour la prendre pérenne. Donc aujourd'hui, oui, on peut se poser la question, est-ce que le taux de 75% va rester le même ou est-ce qu'il va être légèrement raboté? Première question, c'est une question légitime. Il y a une question qui me semble peut-être plus d'actualité, c'est que aujourd'hui, quand vous transmettez une entreprise, si elle est éligible au pacte Dutreil, c'est 100% de la valeur des titres qui va bénéficier de l'abattement de 75%. On pourrait avoir une approche un peu différente, c'est ce qui a été proposé à un moment donné, qui serait de dire, à l'intérieur de cette entreprise, est-ce qu'il y a de la trésorerie non nécessaire à l'activité? Est-ce qu'il y a des actifs qui sont pas dutreillables? Et faire en quelque sorte un bénéfice d'inventaire, un inventaire, et de se dire, on accorde les 75%
sur les parts qui en ont vraiment besoin, et on voilà.
C'est complexe peut-être de faire ça, mais c'est une discipline qui existe déjà dans les holdings qui ne sont pas animatrice, parce que dans la holding animatrice, si vous êtes animateur et éligible, tout est dutreillable. Si la holding est patrimoniale, on va distinguer ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire.
Bon, donc on n'a pas fini d'avoir besoin de vous.
Oui, c'est gentil, c'est gentil de dire ça.
Faut rester accompagné.
Non, mais c'est gentil de dire ça, mais je vais vous dire, fondamentalement, moi, ce que je souhaiterais, c'est une fiscalité stable.
Oui.
Parce que c'est de ça dont on a besoin. Les entreprises ont besoin de se projeter. Donc nous, on n'aime pas trop quand ça bouge beaucoup, parce qu'on souhaiterait avoir une économie, qui peut se projeter dans l'avenir, et notamment des familles qui peuvent se projeter dans l'avenir avec le sourire et avec une certaine confiance.
Merci beaucoup, Christophe.
Merci, Cédric.
Christophe.